Madicast, le podcast qui booste ta créativité.
Bienvenue dans Madicast, donc le podcast créé par l'agence Madigood et qui explore le monde passionnant de l'entrepreneuriat, du design et de la création. Je suis Anthony, votre hôte dévoué, prêt à vous emmener dans un voyage captivant au cœur de l'innovation, de l'inspiration et de la création. Rejoignez-nous chaque mois pour des conversations fascinantes avec des esprits créatifs et des entrepreneurs visionnaires. Préparez-vous à découvrir les secrets du succès, à repousser les limites de votre créativité et à vous inspirer pour réaliser vos rêves, vos envies et vos créations. Bienvenue dans Madicast. Aujourd'hui, pour cet épisode, je reçois Maria Corostelliora, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'une édition du Marseille Design Club où nous sommes intervenus ensemble. Et également, nous avons collaboré pour une marque où elle était à la photographie. Donc, Maria se définit comme photographe, directrice artistique et storytelleuse par l'image. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ça va être l'angle de ce podcast, c'est surtout sa richesse culturelle à travers ses voyages. Maria, bienvenue et est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour tout le monde. Donc, je suis Maria. Et mon histoire, elle commence au Kazakhstan. J'étais née au Kazakhstan, toute ma famille est là-bas, mais j'ai des origines russes-ukrainiennes. Donc j'étais pas de la famille là-bas aussi. j'ai grandi en Chine, à Pékin. Et quand j'avais 18 ans, j'ai déménagé en France. Donc ça fait plus de 8 ans que je suis ici.
Super, ok. T'as toujours fait ce métier dans tes autres pays ou comment ça a évolué justement ?
Je pense que comme la plupart des gens artistiques, c'était toujours ma passion, je dessinais toujours. Et puis quand j'avais 11 ans, j'ai demandé à mon père de m'acheter un appareil photo. Et depuis, j'ai toujours un appareil photo entre mes mains. J'ai commencé il y a longtemps. J'étais toujours connue comme la photographe sur tous les événements, à mon école, partout. On me connaissait comme Maria, la photographe du jour. Donc il n'y avait même pas de question quel type d'études je veux faire. Mais j'étais ravie de découvrir la communication visuelle, qu'on n'est pas obligé d'être juste photographe, mais qu'on peut faire aussi le design, enfin dessiner, créer, etc. Donc je suis venue en France pour faire des études de la communication visuelle.
D'accord, t'es venue en France exprès pour ça ?
Ouais.
C'était pour ça ?
Okay. Oh, ouais.
C'est quoi ton parcours du coup en France ?
Alors je suis arrivée en tout début de 2015. J'ai fait un semestre de la langue française et puis j'ai enchaîné direct dans une école qui s'appelle École de communication visuelle à Aix et j'ai fait 5 ans d'études là-bas. Donc je suis diplômée en tant que directrice artistique de communication visuelle.
Ok, et du coup depuis t'es à ton compte ou t'as fait des expériences en agence ? Comment ça s'est passé l'arrivée sur le monde du travail après 5 ans d'études ?
Comme dans la plupart des écoles, c'était obligatoire de faire des stages. Donc j'ai eu mes seules expériences en agence, c'était des stages. Par exemple, une fois, je suis partie à Amsterdam pour 3 mois et j'ai fait un stage dans une agence où il y avait un duo qui travaillait sur des projets super pertinents. Genre, ils créaient les identités visuelles des hôtels à Amsterdam. Soit un projet sur lequel je travaillais là-bas, c'était identité visuelle de nouveaux musées d'art contemporain.
Super
stylé. À Shanghai, je crois.
Ok. Trop bien.
Ouais. Et après, j'ai fait quelques stages à Marseille et aussi j'avais un stage à Paris dans un magazine, Milk Magazine, si vous connaissez.
Bien sûr.
Après avoir obtenu mon diplôme et avoir fait un stage chez Milk, je me suis lancée direct à mon compte. Parce que c'est dans mes valeurs, quoi.
Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler de les valeurs qui animent ton travail ?
Enfin, ça, c'est peut-être pas la valeur qui anime mon travail, mais... Pourquoi je me suis lancée à mon compte, c'est parce que j'apprécie vraiment cette liberté et pour moi c'est important d'avoir la possibilité de beaucoup voyager, de bouger parce que ma famille n'est pas en France et c'est important pour moi d'avoir du temps de partir pour un mois ou plusieurs semaines dans l'année pour les voir. Voilà, c'est une plus grande raison pour laquelle j'ai décidé d'être freelance. Sinon, les valeurs principales qui me guide dans mon travail, c'est surtout l'authenticité, enfin, être soi-même à fond, ne pas essayer de créer une image juste pour un but défini.
Oui.
L'autre valeur très importante pour moi, c'est la clarté. J'aime beaucoup les structures, les règles, quand les choses sont très claires, pour avoir le moins de champ d'interprétation.
Oui, l'interprétation, ouais.
Oui, voilà. Enfin, je trouve que ça, dans un métier artistique où on peut partir vraiment dans tous les sens, c'est bien d'avoir de la structure. Enfin, ça rassure aussi les gens qui travaillent avec moi que je suis très claire sur ce que je propose, sur les attentes aussi.
Ouais, c'est ça. Mais on le sent hein, de toute façon dans ton travail qu'il y a beaucoup de lisibilité, c'est assez clair. On a une perception assez claire en tout cas de à chaque fois de l'émotion que tu veux partager, de l'histoire que tu veux raconter.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est toujours assez cool. Entre les voyages, les expériences, qui ont sûrement nourri ta créativité, ça, on va y revenir. Quelle est ta définition dans ce métier qui est ultra importante de la créativité ?
La créativité, pour moi, c'est l'art de survie. C'est la flexibilité des perceptions. Quand tu regardes un objet, tu ne vois pas que sa fonctionnalité définie, mais aussi son potentiel sous plein d'autres angles.
C'est très beau, c'est très vrai. Moi, j'aime beaucoup, ok. Donc, qui dit créativité dit processus créatif, ce qui est d'autant plus indispensable dans notre activité. Est-ce que toi, que ce soit dans la photo, dans la création d'identité visuelle, dans la façon dont tu racontes même des histoires, est-ce que tu as un processus créatif qui est clairement défini ou au contraire qui est peut-être plus expérimentale?
L'une des valeurs aussi principales dans mon travail, c'est une approche personnelle. C'est ça aussi, je pense, la beauté de travailler tête à tête avec ton client, n'est pas d'être dans une grande agence, parce que tu peux t'adapter à besoin de la personne, à son caractère. Étant une personne hypersensible, pour moi, c'est super important de créer des contacts très personnels avec les gens devant moi. Donc, ça rejoint du coup mon processus créatif. Tout d'abord, c'est la communication avec la personne, avec le potentiel client. Je lui pose plein de questions sur ses attentes, sur ses objectifs, ses rêves, comment il voit sa marque. Je travaille souvent avec les gens qui se lancent dans ce monde d'entrepreneuriat. Ils ont une idée assez floue, donc moi, je leur pose plein de questions qui leur aident à définir la structure du coup. Pour qu'ensuite, moi, je puisse l'utiliser pour créer quelque chose qui n'est pas juste beau et flou, mais qui raconte vraiment leurs histoires, développe la personnalité de leurs produits, de leurs marques. La première étape, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges. À partir de ça, de toute l'information qu'ils me donnent, et je cherche l'association en se basant sur l'information que le client me donne à partir de toutes mes questions. Je commence à créer un mind map de synonymes visuels à tous les mots posés.
Ok.
Est-ce que c'est clair?
Ouais, c'est très clair. Je vois très bien.
Voilà. Et avec ça, je crée des mood boards pour leur montrer à peu près à quoi ça va ressembler, ce qu'on va faire. Moi, du coup, la plupart du temps, je fais des shootings photos. Donc, je fais la direction artistique des shoots avant de faire le shoot lui-même.
Pourquoi t'as mis en place ce processus créatif? Est-ce que tu sens que ça te permet d'être meilleur ou ça te permet d'assurer tes arrières avec les clients? Ou peut-être les deux?
Déjà, de un, parce que ça me permet de ne pas perdre le temps. Quand j'arrive à un shoot, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Et on passe pas le temps à chercher, oui, peut-être on va faire ça, peut-être on va faire ci ou ça. J'ai déjà un planning de ce qu'on va faire, comment, où, etc. Mais aussi, bien sûr, quand je pose mes bases avant le shoot, le client ne pourra pas me dire, c'est pas ça que je voulais.
Bien sûr.
C'est bien qu'on se mette d'accord sur tout avant le shooting photo. Comme ça, il reste que à réaliser la photo. to have fun pendant le shoot.
Exactement. Tu peux te concentrer sur l'essentiel.
Oui, c'est ça.
Et comment tu l'as construit, du coup, ce processus créatif? C'est justement en écoutant peut-être des podcasts, en lisant avec l'expérience. Comment tu as réussi à te forger cette expérience, cette méthodologie de travail et de création?
Mon processus créatif s'est construit lors de mes études parce qu'on faisait tout le temps des projets fictifs où il fallait imaginer que t'es un client, que tu fais tes propositions, étape 1 et étape 2. C'est sûr que ça a été, les bases ont été posées lors de mes études. Après, ça a été bien sûr affiné avec mes clients. En fait, j'ai capté que plus de questions je pose avant de commencer le processus créatif, le mieux est le résultat.
Et est-ce que tu vois le processus créatif comme quelque chose qui peut être contraignant, parce que justement tu te poses des limites, tu te poses des barrières, ou au contraire ça te permet de cadrer et du coup de te concentrer sur l'essentiel et de pouvoir justement apporter de la créativité sur ce qui a été défini?
Ce processus ne me limite pas. Bien sûr, je m'adapte toujours à chaque personne qui est devant moi. Par exemple, parfois, il faut créer du zéro et vraiment imaginer tous les gens qui vont être présents, le lieu, la déco, etc. Mais parfois, on a déjà certaines contraintes que le client me propose. Genre, il a un endroit sur lequel on va pouvoir faire le shoot. Du coup, j'adapte le reste à ça. Enfin, il faut savoir être flexible, quoi.
Bien sûr, mais grave, il faut s'adapter. Hein. Ça, c'est la règle numéro une. Est-ce que, alors là, tu vois, tu nous as dit que tu faisais la direction artistique, la photographie, l'identité visuelle, storyteller par l'image. Est-ce que tu as d'autres envies créatives, une lubie du moment, une envie de création, quelque chose qui t'anime? Un nouveau médium que tu aimerais tester, une nouvelle technique actuellement?
Actuellement, je suis très contente là où je suis.
D'accord, c'est déjà bien.
Non, parce que depuis des années, je teste un peu tout. J'ai fait du web design, j'ai fait de la typo, j'ai fait de l'animation, mais vraiment tout. Et je sens que c'est que ces dernières années, je me suis vraiment concentrée sur la photo et je suis vraiment heureuse là-dedans. Même si je fais du design, etc., à côté, en même temps. Pour l'instant, je suis bien là, mais je sais que ce n'est pas un métier que je pourrais faire toute ma vie, parce que c'est un métier très physique, très, très, très physique. Ouais. Enfin, surtout pour le shoot, celle que je fais, tu vois. Il y a des shootings photos dans le studio, bien sûr, là, tu ne bouges pas trop. Mais moi, je suis toujours dehors et j'aime bien choisir des endroits, genre dans les montagnes, dans la mer. Je suis toujours...
Et va te lever à 4h du matin pour avoir la bonne lumière au lever du soleil.
Exactement, exactement.
On connaît ça.
voilà, donc je me vois pas à faire ça dans 30 ans.
Je comprends.
Du coup, moi, mon grand rêve dans le futur, c'est d'ouvrir un hôtel.
Ah, à Marseille?
Non, je pense pas. Enfin, on verra. Hein. Franchement, je sais pas du tout en quel état sera Marseille dans 30 ans. Ça va être un projet où je vais pouvoir appliquer tout ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Il y a un hôtel qui s'appelle, comment le prononcer, Reggio. Je pense que c'est italien, donc je pense pas que c'est comme ça qu'on le prononce.
Reggio, peut-être?
R-E-S-C-H-I-O.
Reschio.
Reschio, peut-être. C'est un hôtel, en fait, c'est de base, c'était un château qu'une famille a reconstruit et c'est vraiment un peu perdu dans la nature. C'est un château, il y a des maisons à côté, il y a une piscine, ils ont des chevaux, ils ont plein d'activités qui se passent dans cet hôtel et je trouve ça génial.
Ah, super inspirant.
Bah oui, avoir un endroit où tu peux réunir tous ces gens créatifs et plein de domaines créatifs et bien sûr faire des photos.
Ouais, non mais bien sûr, je suis d'accord. Un lieu, avoir un propre lieu aussi pour faire plein de choses, plein de créations, ouais. Réunir plein de gens créatifs, je suis d'accord, c'est toujours très intéressant. Pour finir sur cette partie créativité, est-ce que tu pourrais nous parler d'une inspiration qui t'a peut-être guidé, épaulé, conforté en tout cas dans une direction créative? Est-ce que t'as une inspiration forte qui te vient en tête?
Alors, guidé... je dirais, c'est le magazine qui s'appelle Kinfolk.
Ouais.
Je pense que beaucoup de gens le connaissent.
Ouais. Bien sûr.
Ouais, pour moi, quand je l'ai découvert, c'était vraiment un moment de « waouh, c'est ça que je veux faire ». C'est exactement ça que j'aime dans l'art, dans le design, dans la photo. Vraiment de A à Z, leur mise en page, leur direction artistique, les photos qu'ils faisaient à l'époque. J'adorais. C'était au moment quand le fondateur, Nathan Williams, il était aussi le directeur créatif du magazine. Depuis quelques années, ça a changé. L'univers de ce magazine a changé aussi. Maintenant, je m'y reconnais un peu moins. Mais quand même, quand je pense vraiment à une inspiration qui a donné les bases de mon style, c'était Kinfolk.
Super stylé. Ok, je vais passer maintenant sur un aspect qu'on a un peu moins évoqué, mais qui est tout aussi important, c'est cette partie multiculturelle, cette partie voyage. qui est quand même assez importante dans ta vie. Comment tes voyages, tous les pays que tu as visités, ont construit ta créativité, ont construit tes inspirations? Est-ce que ça a construit déjà quelque chose en toi ou pas forcément?
Non, c'est sûr que ça a construit quelque chose en moi. Ça m'a... J'aurais été quelqu'un de très différent si j'aurais resté au Kazakhstan, je suis sûre. Déjà, le fait que j'ai pas envie de rester sur place, j'ai envie de bouger tout le temps et changer tout le temps de domaine dans lequel je travaille, tout ça c'est lié. Je me suis dit que, en fait, ce qui est génial dans le voyage, dans le changement de pays, c'est le changement de scénario. Quand tu vas d'un pays à l'autre, tu découvres différentes cultures et tu captes que le monde ne fonctionne pas de la même manière partout. Je pense que ça développe aussi énormément ta créativité. Ça peut être des trucs tout petits. Par exemple, moi, je viens principalement de l'Asie. Et chez nous, c'est la base d'enlever les chaussures quand tu rentres dans l'appartement. C'est un petit détail qui change tout ton quotidien, qui change le design d'intérieur de ton appartement, la manière dont tu fonctionnes à l'intérieur versus l'extérieur. Tu vois, le changement, c'est le changement de scénario qui t'influence le plus.
Et là, alors qu'aujourd'hui tu es en France, est-ce qu'il y a des pays que tu as visités aujourd'hui qui t'inspirent? Pas au quotidien, mais en tout cas, tu puises dedans dans tes créations?
C'est vraiment un mélange. Tu sais, parce que moi, j'aime beaucoup ce côté chaleureux du sud, de la France, de l'Italie. Mais en même temps, j'admire le design nordique. Genre, quand j'étais à Amsterdam, je me sentais trop bien. J'étais dans ma assiette. Genre, c'était moi. Et je rêve d'aller à Copenhague. Je trouve que c'est aussi un pays qui... Enfin, je me reconnais dedans. S'il y a un pays qui m'influence, qui m'a beaucoup influencé, c'est, je pense, le Pays-Bas. Mais sinon, ça fait 8 ans que je suis en France, donc bien sûr, la culture française, elle est là, quoi.
Bien sûr. Et du coup, comment tu vois la culture française et de surcroît Marseille comme inspiration? Comment tu le vois? C'est ce côté chaleureux, justement, qui peut ressortir dans l'inspiration?
Pour moi, c'est vraiment, tu vois, la pellicule, le grain, la détente, de couleurs vraiment très, très chaudes. Coloré aussi. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, je suis allée en Italie. Et mon Dieu, la lumière là-bas, elle est sublime. Mais genre, vraiment, peu importe le moment dans la journée, c'était parfait. Et je pense que ça, c'est aussi... ça donne plus de liberté de création. Parce que à n'importe quel moment, tu peux commencer à créer. Tout est prêt pour ça.
Tu étais où en Italie?
Je suis allée à Venise et à Florence.
Ah, trop bien.
Florence. Oh j'ai adoré.
Eh oui, magnifique. Hein. Magnifique.
Les couleurs de Florence, c'est quelque chose... je sais pas, j'ai pas vu ce type de couleurs ailleurs pour l'instant.
Mais c'est un musée. C'est une ville où y a carrément des morceaux d'histoire dans la rue.
Ouais, c'est absolument... ça. Posé juste au milieu de la place.
Ouais, c'est très inspirant, effectivement. Et Venise aussi, hein, magnifique. Mm-hmm. D'ailleurs, Venise, j'y vais la semaine prochaine.
Ah, trop bien.
Mais il fait pas beau.
J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, parce que franchement, c'est très étroit. Enfin, j'imagine même pas comment les gens y vont pour le carnaval.
Ah ouais, ça doit être blindé, c'est clair. Est-ce que t'as un lieu en dehors d'Amsterdam qui... ou ça peut être Amsterdam au final. Hein. Quel est le lieu qui vraiment t'inspire? Un lieu, en tout cas, un de tes voyages qui t'a peut-être le plus marqué?
Je dirais qu'il y a deux lieux. Un, c'est Amsterdam, parce que il y a 3000 raisons pourquoi c'est Amsterdam. J'adore Amsterdam, j'adore le fait que c'est plat. Et c'est vaste. J'ai l'impression que je peux aller où je veux, à pied ou en vélo. C'est vraiment ce sentiment de liberté que j'adore là-bas. Et sinon, un autre endroit qui m'inspire énormément, c'est les Alpes.
D'accord, ok.
La famille de mon copain, ils ont une maison là-bas. Et on y va régulièrement. C'est vraiment un petit village perdu entre la France et l'Italie. Et c'est une maison qu'ils ont depuis, je sais pas, 400 ans. Enfin, d'accord. C'était dans leur famille depuis 400 ans. Et j'adore ce côté familial. En fait, moi, tant que quelqu'un qui n'a pas trop de racines au final, vu que j'ai bougé vraiment partout comme C'est pas beau le nom de ce fleur en français, pissenlit. Mais j'aime bien cette fleur parce que tu vois, au début il a une racine et puis il s'envole vraiment partout.
Exactement, bien sûr.
Il s'adapte et tout. Voilà, et quand je vois qu'il y a une maison où la famille a vécu pendant 400 ans,
oui.
Il y a... enfin, ça me rassure, ça me donne ce côté sentiment de...
d'apaisement peut-être.
Ouais, I got your back, tu vois. I got your back, genre tu peux...
assurer tes arrières.
C'est le sentiment que tu peux compter sur quelqu'un, sur quelque chose. Qu'il est là, il est stable, ses maisons en pierre, il est toujours là, entouré par cette beauté, ces immenses montagnes. Voilà, ça m'inspire énormément.
Trop cool, trop stylé. Bon, on imagine très bien les petits canaux d'Amsterdam et on imagine très bien les immensités des montagnes, des Alpes. Mmh. C'est deux paysages magnifiques. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour les créatifs qui nous écoutent ?
Commencez avant notre prêt.
D'accord.
Parce que c'est bien comme ça qu'on le dit.
C'est exactement
ouais.
ça.
Ouais, ouais. Voilà, commence avant d'être prêt. Parce que, surtout les femmes, on a tendance de syndrome d'imposteur, de penser qu'on n'est pas encore au niveau, qu'il y a d'autres gens qui vont le faire mieux que nous. Alors, pas du tout. Il y a tellement de gens, surtout dans les professions créatives, qui sont vraiment dans cet état d'esprit de fake it till you make it. Donc, faut pas avoir peur de se lancer. Si t'es vraiment pas sûr, entraîne-toi. Et tu seras prête.
Bien sûr. Super. Bah écoute, Maria, merci beaucoup. Merci infiniment d'être venue. Et puis, on peut te suivre de toute façon tes aventures sur les réseaux sociaux.
Merci de m'avoir invité.
C'était un grand plaisir.
De m'avoir invité.
C'était un grand plaisir. Merci, Maria.